RCF.
Avec vous, André Birmelet, nous parlons de la grâce en Christianis. Nous avons dit que Dieu se donne à l'homme gratuitement. La gratuité, nous disions, est une valeur profonde et en même temps qui fait douter un certain nombre d'hommes et de femmes. Est-ce que peut-on avoir quelque chose de gratuit aujourd'hui? C'est vraiment une question. Alors j'aimerais qu'on revienne sur Dieu, ce Dieu de l'Alliance dont vous avez parlé. Qui est ce Dieu de la Bible, au fond, dont vous avez dit, mais c'est un père?
Je suis chrétien, donc ma référence première, ce sera évidemment le texte biblique, et plus particulièrement pour dire qui est Dieu, ce sera le Nouveau Testament, parce que nous affirmons que Dieu s'est donné aux humains dans la personne du Christ, lui-même pleinement Dieu.
Donc Jésus, qui était vrai homme et vrai Dieu, hein, oui, selon le credo,
oui,
et qui vient nous dire quelque chose de notre origine, de là d'où nous venons, de notre Créateur.
Il fait même beaucoup plus que ça, mais il fait aussi ça. Il vient sur terre, et puis, si vous prenez le début de l'évangile de Jean, on appellera Jésus le Logos, la parole. Jésus est la parole de Dieu, Jésus est Dieu lui-même, et Dieu, si vous prenez le Nouveau Testament, on ne vous le définira jamais comme un vieillard barbu derrière les nuages en train de tirer des ficelles ou de noter des bons points, etc. On vous dira dans le Nouveau Testament que Dieu est parole. Ça, c'est la première chose. Et puis, dans les mêmes écrits johanniques, c'est les épîtres de Jean, on vous dira que Dieu est amour. Et si vous êtes conséquent, Dieu n'est pas quelqu'un qui parle et quelqu'un qui aime. Dieu est parole et amour. Ce ne sont pas des qualités de Dieu, mais c'est l'être même de Dieu. Et alors cet être même de Dieu, comment ça va se traduire? Donc c'est un peu, c'est pas théorique, mais c'est peut-être pas aussi facile ou aussi simple. Pour le comprendre, il faudra que, une fois de plus, vous cherchiez des analogies humaines, et vous allez vous retrouver dans l'analogie, une fois de plus, soit de la famille, soit du couple. Et vous découvrirez combien la notion d'amour et la notion de parole sont en fait les notions majeures, les pouvoirs majeurs qui nous régissent.
Par exemple.
Maintenant, je vais vous dire à vous, je t'aime. Et vous allez me répondre merci pour l'information. Donc, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Normalement, ça devrait créer entre nous une relation d'un tout nouveau type. Un autre exemple. Je vais vous traiter de tous les noms, les pires jurons. Et après, je vous demanderai d'être gentil avec moi. Vous savez parfaitement que ça n'ira pas non plus.
Et oui, incohérence entre la parole et la réalité.
Oui, ben voilà, ça vous montre que la parole crée une situation nouvelle, tout comme l'amour crée une situation nouvelle. Ce ne sont pas simplement des choses qu'on a quelque part à côté de nous, mais ce sont les données centrales qui créent des situations nouvelles. Et c'est dans le Nouveau Testament la définition majeure de Dieu. Ce qui ne veut pas du tout dire, à aucun moment ça ne veut dire que Dieu ne serait pas aussi celui qui a beaucoup de pouvoir, etc., même si je m'en méfie. Le langage biblique, c'est Dieu aime et Dieu te parle. Je parle à Dieu, j'aime Dieu. Et cette relation parlante, confiante, aimante, c'est ce que nous appelons la foi. Moi, je ne crois pas en des dogmes, je crois en Dieu. Et maintenant, j'essaye de le formuler, s'il le faut aussi par des formulations de dogmes. Mais je ne crois pas en des données objectives, je crois en une personne. Et le lien que j'ai, c'est un lien de foi. Et cette foi est basée sur la parole et l'amour qui viennent d'abord une fois de Dieu. Et je ne fais rien d'autre que de proposer ça au monde. Nous proposons au monde, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Si vous le voulez le dire avec d'autres termes, c'est la prière qui n'est pas d'abord ma prière adressée à Dieu, mais la prière que Dieu m'adresse. Je te propose quelque chose, je t'en supplie, accepte-le, je te propose mon amour et je te propose ma parole. Et celle-là va alors se traduire dans la vie du Christ, et en particulier dans la croix du Vendredi Saint, la résurrection du matin de Pâques, les discours de Jésus, en particulier les paraboles. On va quand même en citer une. Prenez la parabole du fils prodigue, qui est l'exemple même de cet amour du Père et de cette parole du Père.
Oui, c'est le fils qui part avec l'héritage.
Le fils qui part avec l'héritage auquel il avait parfaitement droit, étant donné qu'il était le second. Et alors qu'il échoue comme on échoue dans la vie, et c'est pas du tout... Bon, son frère aîné supposera par la suite qu'il a fait des erreurs, il a dépensé son argent, et puis il y a des histoires de prostituées et compagnie, ça c'est le grand frère qui suppose. C'est pas du tout ça, c'est un homme qui tout simplement échoue.
Et qui se dit « je suis pas indigne de revenir chez mon père ».
Voilà, et je vais lui demander d'être simplement ouvrier. Et alors qu'il est encore loin, alors ça c'est dans... il faut relire ça dans Luc 15, son père le voit... Et c'est là qu'il y a maintenant l'erreur, j'appelle ça toujours l'erreur de Rembrandt. Rembrandt qui vous dessinera le père qui accueille son fils, qui se jette à genoux, etc. Ben, lisez le texte. Celui qui se jette au genou de l'enfant, c'est le père.
Au cou même, oui, il se jette au cou.
C'est lui qui prie son fils de rentrer. Et qui après lui dit, voilà mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Et vous avez là le comble... de l'amour et de la parole, et c'est ce qui a agacé les auditeurs de Jésus.
André Birmelet, parlons de la toute-puissance. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, parce que ce Dieu tout-puissant, qu'on dit tout-puissant, comment s'exerce-t-elle cette puissance, puisque vous dites que Jésus est la parole incarnée, Dieu qui s'incarne, et on sait comment s'est terminée l'histoire, un Dieu crucifié.
Et si la croix était l'expression même de la puissance? Alors je ne vais pas jouer avec le mot, mais il y a un jeu de mots que j'aime beaucoup. Là où il y a l'amour du pouvoir, l'Évangile nous parle du pouvoir de l'amour. Et vous êtes dans la situation où s'effectue ce que moi j'appelle un renversement des valeurs. Et ce qui semble faible aux yeux de l'humain, aux yeux du monde, est la force, la seule qui mérite ce mot.
Vous citez saint Paul.
Je cite évidemment 1 Corinthiens 1, la croix qui est scandale, folie pour les juifs et pour les païens, et qui pour nous est la source même de la vie. Je trouve ça remarquable, et là d'ailleurs, vous n'avez qu'à aller dans l'actualité. Les gens qui finalement sont les gens qui marquent l'histoire, ce sont des abbés Pierre, des sœurs Emmanuel, des Albert Schweitzer, et des gens qui ont précisément compris ce qu'est le véritable pouvoir. Et comme le dirait Jésus, ce sont les pécheurs, les gens à l'extérieur, qui sont le plus à même de comprendre le pouvoir de l'amour.
Pourquoi?
Mais parce que nous, on est tellement persuadés dans notre orgueil que nous y arriverons par nous-mêmes. Et nous maîtriserons notre vie, nous sommes suffisamment forts, et puis on y arrivera. Ce sont que ceux qui ont échoué qui savent qu'on n'y arrive pas, vraiment.
C'est-à-dire que celui qui est tombé très bas, il sait ce que c'est d'appeler quelqu'un et de lui dire « viens à mon aide, viens me sauver ». Alors sauver, salut, on est dans...
Je ne suis même pas sûr qu'il ait besoin d'appeler. C'est à lui qu'on peut proposer la vie et il sera plus à même de l'accepter que celui qui pense évidemment y arriver par lui-même. Vous voyez, là aussi, vous avez l'enfant. L'enfant est en mesure beaucoup plus facilement d'accepter quelque chose que celui qui est dans la force de l'âge et qui maintenant sait tout. Et lorsque l'Écriture vous dit « si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume », c'est bien ça. Il faut apprendre à accepter d'être reçu par Dieu. C'est ça le pouvoir de Dieu, c'est de vous prier d'accepter ce qu'il vous propose. Et là, vous êtes dans une compréhension qui tout simplement fait rupture aussi avec bien des compréhensions de Dieu, de la religiosité populaire et des compréhensions de Dieu de d'autres religions.
Un Dieu qui naît enfant, un Dieu qui meurt,
oui.
C'est l'inconcevable.
Oui, c'est l'inconcevable.
Pour nous autres, être oui. habitués à une religion, justement, avec des êtres supérieurs
oui.
à qui il faut sacrifier quelque chose.
Mm-hmm.
Donc il y a un renversement. Peut-on dire que le christianisme est encore une religion dans ce sens-là ?
Dans ce sens-là, non. C'est... Je ne peux pas le classer avec tout simplement comme une religion parmi d'autres. C'est une approche qui, à mon avis, diffère. Pour revenir à Dieu, on va prendre le récit de la tentation de Jésus dans le désert. C'est Matthieu 4. Vous avez cette tentation. Si tu es vraiment Dieu, allez de ces pierres, tu fais des petits pains. Hein, c'est-à-dire, tu fais n'importe quoi avec n'importe quoi. Si tu es vraiment Dieu... Tu te jettes du temple et puis rien t'arrivera. Si tu es vraiment Dieu, allez hop, tu vas commander sur ce monde. Et tout ce royaume-là, tu vas en être le grand chef. Et les trois choses sont refusées par Jésus. Mais en fait, il s'agit de trois conceptions de Dieu que moi j'ai. Dans cette histoire, c'est moi le tentateur. J'aimerais bien un Dieu qui fait des petits pains avec des cailloux. N'importe quoi. J'aimerais bien Dieu qui échappe à toute blessure. J'aimerais bien Dieu qui commande avec moi dans ce monde. Le Dieu de l'Évangile, c'est pas ça.
À demain, André Birmelet.